Chapitre 2. L'adorable Fanny. Mais qu'est-ce que cela voulait dire ? Jean a menti, pensais-je, y voit clair. Quoi, sans yeux ? Avec ces choses inanimées ? Allons donc, c'est fou. Je me serais trompé. J'ai mal observé. Il a tiré sa montre et il l'a mise à l'heure, a touché les aiguilles, après avoir soulevé le verre. Rien de plus facile. Chacun sait où se trouve midi sur le cadran de sa montre par rapport à l'anneau. Mais pourtant non, je regardais attentivement. Cela demande confirmation. Mentir, pourquoi ? Si véritablement on l'avait pourvu d'appareil visuel, s'il portait sous les sourcils des merveilles assez précieuses pour remplacer les yeux, serait-il assez égoïste, assez bêtement sauvage pour le cacher ? À cette question, une voix intérieure me répondait « oui ». Et ce n'est pas sans ironie que je mesurais combien Jean le Maurice m'apparaissait moins pur, moins parfait, depuis qu'il n'était plus mort. Son retour parmi nous l'avait dépouillé d'une auréole, et je me sentais incapable de rendre au vivant le culte que j'avais voué à sa mémoire. Petit travers que les siens, je le reconnais, mais les morts sont des dieux. D'un autre côté, reprenais-je en moi-même, il y a des comédies qu'un regard de médecin démêle à coup sûr. Feindre la cécité n'est pas chose commode, et je ne m'y serais pas trompé. Il est vrai que tout à l'heure, justement, un doute très vague m'occupait. Je me réserve de tenter quelque épreuve. À peine avais-je pris ce parti, qu'un rayon de soleil pénétra fort à point dans mon cabinet. Jean, au fond de sa chambre, était tourné vers moi. Sa fenêtre était encore ouverte. J'ouvris la mienne sans bruit, et je plaçai dans le rayon un petit miroir de poche. Projeté par la glace, un rond folâtre tremblota sur la façade ombreuse, puis sur le mur au fond de la chambre, et il se posa comme un masque de lumière sur le visage de Jean le Brice. Ni l'homme ne broncha, ni ses yeux se sillèrent. Alors, que penser ? J'étais perplexe. Le plus sage était de garder le silence jusqu'à nouvel ordre. Aussi bien, quoi qu'il en fût, le secret de Jean ne touchait en rien son honneur militaire. D'un bout à l'autre de la guerre, il s'était conduit vaillamment. Tombé sous les yeux de ses chefs, au cours d'une retraite commandée, il faisait partie d'une classe actuellement démobilisée. La paix allait être signée, il était libre, et grâce à Dieu, je le connaissais assez pour savoir que si l'exil s'était prolongé pour lui, cela ne pouvait être qu'à son corps défendant. Je dus patienter pendant 15 jours avant de trouver l'occasion qui me livra la vérité. La vérité, mais elle dépassait tout ce que mon imagination pouvait prévoir. Sa révélation aurait dû m'exalter, me transporter d'enthousiasme et me laisser confondu comme si j'eusse été quelque humble médecin du Moyen Âge à qui l'invention de la radiographie ou de la télégraphie sans fil eût été dévoilée par anticipation. Certes, je ne dirais pas que mon esprit résista au vertige. Quand j'aperçus l'immensité de la découverte, un frémissement m'agita tout entier. Mais l'homme est ainsi fait que son cœur le gouverne. Le mien palpitait alors d'un amour naissant, et rien ne pouvait plus me passionner de ce qui n'était pas l'adorable Fanny. Fanny. Ma main tremble lorsque j'écris son nom. Je ne croyais pas qu'il existât sur terre une créature aussi séduisante. Et d'abord j'ai pensé que j'étais seul à subir l'attrait de ses charmes par le mécanisme secret des affinités. J'avais vécu jusqu'à 35 ans sans croire à l'amour tel que les poètes le chantent. J'avais passé parmi les femmes de mon temps, la bouche serrée et l'œil dur, sans que l'une d'elles m'eût attiré. Celle n'a dû qu'apparaître pour faire de moi son serviteur avide et frissonnant. Un peu plus tard, avec autant d'orgueil que de jalousie, je me rendis compte que Fanny était pour tous ce qu'elle était pour moi, et que sa radieuse jeunesse exerçait un empire universel. Fanny, oh Fanny. Ce fut comme un pressentiment. Deux semaines environ après le retour de Jean, Madame Lebris, justement préoccupée de la santé de son fils, m'avait demandé de l'ausculter. Nous étions dans la chambre de l'aveugle. Le soir tombait. J'entendais au-dessus de nous quelqu'un marcher en tous sens et le glissement d'objets lourds qu'on traînait sur le plancher. « Eh bien ?» me dit Madame Lebris quand l'examen fut terminé. « Eh bien, » répondis-je en dissimulant le fond de ma pensée, « cela n'est pas très inquiétant, mais l'air des hauteurs me semble indiqué. »« Ah, jamais !» s'écria Jean. « Ah, qui était belle, vous ? Ah non ! Le printemps commence, et l'air d'ici n'est pas mauvais. À l'automne, si vous y tenez, nous pourrons aller du côté de Nice, à Cannes, par exemple. » « À l'automne, pensais-je, où serez-vous, mon pauvre Jean, à l'automne ?»« D'ici là, reprit-il, sauf votre respect, docteur, nous ne bougerons pas et nous ferons des économies. »« Quel psychologue, quel devin m'expliquera pourquoi j'étais distrait, pourquoi, malgré mon chagrin, malgré le désastre pathologique que l'auscultation venait de m'apprendre, ce remue-ménage martelant le plafond se répercutait dans les profondeurs de mon être et accaparait une bonne part de mon attention. Oh, des économies, releva Madame Lebris. À présent que le deuxième étage est loué. Mais par le temps qui court, maman, 1800 francs ne sont pas grand-chose. Ah, fiche, vous avez loué. « Mais oui !» exulta la vieille dame. « C'est à Maître Puissant Dieu que nous le devons. Il nous a procuré des locataires charmantes, des dames de Lyon. « D'Arras !» rectifia Jean. « Mais elles se sont réfugiées à Lyon pendant la guerre. Tous leurs biens ont été détruits. Elles cherchaient une installation plus campagnarde. Et Puissant Dieu avait fait paraître des annonces dans les journaux lyonnais. » Pour l'appartement, 1800 francs, tout meublé. C'était raisonnable. Ces dames sont venues visiter ce matin et elles restent. Mais j'entends d'ici qu'on modifie le décor. On a ses goûts et ses idées. Madame Fontan est repartie pour Lyon, dit Madame Lebris. Elle ne reviendra que demain avec les mâles. C'est Mademoiselle Grive qui s'organise là-haut. « Mademoiselle Grive, questionnai-je. »« La nièce, dit Jean. »« Et Madame Fontan, la tante. »« Mademoiselle Grive, c'est la jeune fille qui règne. »« Madame Fontan, la brave femme qui pivote. »« Voulez-vous voir l'enfant, Bert ?»« Rien de plus simple. »« Elle dîne avec nous. »« Maman vous invite, n'est-ce pas, maman ?»« Bien volontiers, fit Madame Lebris, avec la crainte manifeste du gigot trop modique. » ou du chapon trop svelte. J'excipais pour refuser d'un prétexte quelconque, et je me retirais, fidèle à la consigne que je m'étais donnée, c'est-à-dire sans avoir, plus que les jours précédents, risqué quoi que ce fût à propos de l'inconcevable cécité de Jean Lebris. Mademoiselle Grive descendait l'escalier du deuxième étage dans une envolée de mousseline. Je m'effaçais contre la muraille du palier, saisi d'un trouble ravissant, avec un salut gauche et machinal. Et quand je fus rentré chez moi, il me parut que cela s'était fait par enchantement et qu'une baguette magique m'avait transporté instantanément du palier de Madame Le Maurice dans mon cabinet. Fanny, je ne suis qu'un misérable lâche. J'ai beau tendre toute mon énergie pour effacer de ma mémoire votre image charmante. Vous m'avez marqué de votre accent brûlant et j'en sens la douce blessure depuis ce crépuscule où je vous entrevis, ma bien-aimée. Depuis cette nuit que je passais dans la fièvre d'un étonnement et d'une joie sans borne, me répétant tout haut que j'aimais, que j'aimais, que j'aimais. Ah, l'exquis et l'affreux souvenir! Fanny, blonde Fanny qui descendiez vers moi, légère et souple dans les nuées de votre chevelure et de vos mousselines, comme Diane devait glisser vers Endymion. Je vous aime encore, hélas. Je la revis le lendemain, comme j'allais chercher Jean pour le mener à la promenade. Car Madame Le Bris, impotente, ne pouvait servir de guide à son fils. Césarine avait d'autres occupations, si bien que je m'étais imposé de consacrer quotidiennement une heure à Jean Le Bris. Quand mes malades ne m'en laissaient pas le loisir et que Maître Puissant Dieu ne pouvait me remplacer, mon ami Jean se risquait seul au dehors sur une sente sylvestre de lui très familière dont il palpait le talus du bout de sa canne. Les bois, en effet, s'étendent derrière la maison Le Bris et c'est, paraît-il, ce voisinage bocager qui avait décidé Mademoiselle Grive à s'y établir pour l'été. Je ne sais quel délai d'aménagement avait provoqué sa présence chez sa propriétaire lorsque je m'y présentais moi-même. Madame Le Bris me nomma. La veille, à peine avais-je eu le temps d'apercevoir la jeune fille. Je ne connaissais encore que la beauté de sa personne, la grâce de ses mouvements, le regard velouté de ses yeux gris de perles et ce parfum de rose dont elle était fleurie. Sa voix faisait une musique. J'ai dû pâlir et trembler. Je cherchais en moi celui que je n'étais plus. J'aurais voulu tout ensemble m'enfuir et ne plus jamais la quitter. Je viens, balbutiai-je. C'est pour la promenade de Jean. Jean venait de sortir. Il était tard. Et croyant que je lui ferais faux bon, il s'était résigné à se passer de moi. Césarine, l'ayant conduit à la lisière des bois, remontait. « Vous le rejoindrez rapidement, » fit Madame Le Bris, « il sera si content. »« Oh, madame, pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» reprocha Mademoiselle Grive. « J'aurais accompagné monsieur votre fils. » Cela fut dit d'un ton plein d'humanité, si simple, si touchant, que la pauvre mère en eut les larmes aux yeux. Et cela fut dit de cette voix caressante qui me semblait prêter au moindre mot banal la douceur passionnée du plus tendre serment. Je m'esquivais, la poitrine en révolution, ivre de bonheur. La nature embellie m'entourait de promesses. Je n'avais jamais rien vu d'aussi agréable que ce sentier d'herbes folles côtoyé de buttes verdoyantes. Le soleil brillant à travers les jeunes frondaisons paraissait y donner une fête en mon honneur. Les fleurettes n'étaient vives, les oiselets n'avaient de ramage que pour me féliciter. Le printemps ne régnait qu'à cause de mon amour. Je chuchotais. « Je suis heureux, j'aime. Merci les pâquerettes, merci le bouvreuil. Merci, merci, soleil, azur, papillon. Bien gentil, bravo. » Et je portais mon cœur comme un encensoir. Pourtant, cette fin de journée était à vrai dire plus estivale que printanière. Une chaleur prématurée cuisait la terre, et comme une énorme montagne de neige étincelante, un nuage monstrueux encombrait le sud-ouest. J'allais, mais tout à coup, sortant du rêve, je fis la réflexion que Jean Le Bris avait marché singulièrement vite. Ou bien s'était-il engagé dans une autre direction? Le sentier bifurquait derrière moi. Pouvait-on supposer que l'aveugle se fût hasardé? Non. La bifurcation se coulait à main gauche, et je savais que Jean prenait soin de traîner sa canne au long du talus de droite. C'est du moins ce qu'il m'avait dit. Mais à tout prendre, fallait-il le croire? L'incident de la montre m'obsédait. Je m'arrêtais. On n'entendait que le fourmillement des sous-bois dans le calme orageux de l'espace, et plus loin, le murmure étouffé de la bourgade. Je retins un appel. Mon jeu, au contraire, était le silence. Jean se croyait seul au milieu des fourrés. Le retrouver en tapinois, l'épier, voilà le plan. L'attendre au besoin, en arrière, à la bifurcation, sans faire de bruit, peut-être même sans me montrer. Mais il me sembla percevoir en avant le son rauque et saccadé d'une canne de toux. J'avançais prudemment. Le soleil baissait. Sous la voûte des feuillages, l'ombre venait peu à peu. Une tortue m'aurait suivi. Enfin, Jean Le Bris m'apparut. Il était assis sur un arbre abattu, à l'écart du sentier qui maintenant serpentait de plein pied à travers bois, et il me tournait le dos. Lentement, choisissant la mousse pour y porter mes pas, je gagnai l'abri d'un épais buisson. Là, bien que je fusse toujours derrière le promeneur, je pus me convaincre qu'il examinait dans ses mains quelque chose. Mais quelle chose ! Ma position et l'ombre croissante m'empêchaient de m'en rendre compte. Cependant, cette chose maniée faisait un cliquetis métallique. L'horizon gronda. La chaleur abusive créait l'une de ces ambiances inhospitalières dont le corps humain s'étonne et s'effraie, comme si ce fût là le début des temps irrespirables. Je pris mon mouchoir pour m'éponger le front. Mon couteau s'échappant tomba sur une pierre. Au bruit, Jean Le Bris, jailli debout, me fit face. « Qui va là ? » dit-il d'une voix coupante. Ma stupéfaction ne peut se décrire. Il me regardait à travers la masse opaque du buisson, et ses yeux fixes, ses larges yeux énigmatiques, luisaient d'une faible luminescence. Je ne sais ce qui m'hébéta davantage, de voir dans cette figure ces deux lueurs, d'être fixé par elle malgré l'obstacle qui me séparait de Jean Le Bris, ou de constater que cet homme qui me regardait et dont j'étais l'ami ne me reconnaissait pas. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? » reprit-il d'un ton menaçant. « Répondez ou je tire !» Ce qu'il maniait tout à l'heure me fut alors dévoilé. C'était un revolver. Il le braquait sur moi avec une incontestable précision. 20 mètres au maximum nous séparaient. Je prononçai très posément et non sans gravité. « Docteur Barr, n'ayez pas peur, Jean !» Il eut un geste de contrariété, presque de rage, et remit son arme dans sa poche. J'étais près de lui. « Mon petit Jean, le dis-je affectueusement, vous ne pouvez pas rester seul en compagnie de votre secret. Vous avez besoin d'aide. Vous craignez des dangers, si j'en juge par l'émoi que vous venez d'éprouver et qui vous a trahi malgré vous. » Si j'en crois les moyens radicaux que vous n'hésitez pas à employer contre les indiscrets, ces dangers sont redoutables. Mais ne pensez-vous pas qu'un allié vous serait précieux ? Croyez-vous, sans appui, pouvoir dissimuler à tous la particularité dont vous êtes le siège? Croyez-vous pouvoir vous défendre avec vos propres forces contre les curieux et contre vos ennemis? Car, n'est-ce pas, c'est bien un ennemi que vous soupçonniez derrière le buisson. Après un instant de sombre méditation, Jean leva vers moi ses yeux nus et phosphorescents. « Mon cher Bar, fit-il, je vous en donne ma parole. La seule raison de mon silence, c'est que je ne veux à aucun prix qu'on me traite en phénomène, en sujet de vitrine, en monstre, que les médecins et les savants se passent de l'un à l'autre. Mais ce n'est pas le médecin, c'est l'ami qui vous parle. Alors donnez-moi votre parole à votre tour. Tout ceci restera entre nous, Jean, si vous le souhaitez. Mais pourtant, il me semble, la science... Oh, laissez la science où elle est. Je sais que je n'ai plus longtemps à vivre. Ne protestez pas. L'auscultation vous l'a dit. Eh bien, je veux finir mes jours, si Dieu le veut, dans la tranquillité. Soit, je vous donne ma parole d'honneur de garder votre secret. Quand je n'y serai plus, vous ferez ce que vous voudrez. Jusque-là, que cela soit bien entendu, vous ne parlerez de mon aventure à âme qui vive. C'est promis, Jean. Il ferma les paupières un instant pour se recueillir. Elles apparurent légèrement roses par transparence. L'aventure de Jean Lebris. Jean Lebris parlait. La dernière vision que j'ai perçue, oh oui, je dis bien vision, Bar, vous comprendrez par la suite. La dernière fois que j'ai vu le spectacle des choses telles que vous les voyez vous-même, solides et colorées, c'était dans une prairie marécageuse au nord de Dormance. Ma compagnie se repliait sous les obus. Derrière nous, les champs montaient, et l'horizon tout proche se découpait sur le ciel comme un mur. Devant nous, de grands arbres limitaient la prairie, formant un bois touffu qui s'allongeait indéfiniment à droite et à gauche. Je suppose qu'une rivière doit couler par là. Nous courions, entourés de sifflements et de détonations. Les grands arbres volaient en éclats où leur feuillage s'agitait au vent des projectiles. Les obus, serrés, faisaient jaillir des volcans de toutes parts. L'air brutalisé nous bousculait. C'était un véritable enfer où l'on entendait miauler dans le vide comme une légion de chats invisibles, enragés, écorchés, ébouillantés. Car dans ces moments-là, tout semble vivant. Des camarades culbutaient. Poussés par ce vieil instinct périmé qui survit à l'intervention des marmites, nous nous hâtions vers le bois. Je ne l'atteignis point. Tout me porte à croire qu'un éclatement se produisit derrière moi. Je n'ai rien vu, rien senti. Ce fut le non-être instantané. Et je ne puis vous dire combien de temps je suis resté là, couché dans l'herbe haute. Je repris conscience de moi-même par la sensation d'une courbature extrêmement douloureuse. L'immobilité me parut le comble du bonheur, et je restai longtemps dans un état de faiblesse et de torpeur, du fond duquel j'entendais gronder la canonnade. Puis le sentiment du péril se fit jour au sein de mon sommeil. La nature, de plus en plus impérieuse, m'enjoignait de secouer l'engourdissement. J'étais peut-être grièvement atteint, mon sang s'écoulait peut-être d'une blessure insensible. Il faisait nuit noire, pas de lune, pas une étoile. Avec des effets surhumains, je pus trouver mon briquet à essence dans une poche de ma veste. Mais avant même d'avoir fait usage, une idée terrifiante me traversa l'esprit. Le canon tonnait. Au-dessus de moi, j'entendais se croiser les trajectoires. J'étais donc au milieu d'une bataille. Et pourtant, aucune lueur n'éclairait la nuit, ni d'un côté, ni de l'autre. D'un coup de pouce, je fis tourner la molette du briquet. Pas de flamme. Je pinçais fébrilement la mèche, une brûlure m'avertit que j'étais aveugle. Mes yeux me faisaient souffrir, c'est vrai, mais mon corps tout entier était si dolent que rien jusqu'ici ne m'avait désigné les points les plus compromis de ma chair. Je me tâtais comme un homme qui craint de s'être perdu lui-même. Je fus debout, je fis deux pas, mes mains se reconnaissaient doigt par doigt. Je les passais sur ma figure, et je ne sentis rien d'affreux. Ma moustache broussie, mes cils brûlés, un picotement sur toute la face. Pour le reste, une migraine inimaginable et cette fatigue qui me rompait les muscles dans tous les coins de mon individu. Mais faisait-il nuit vraiment? Cela se pouvait. L'herbe était couverte de rosée. On devait être au matin. L'odeur piquante des déflagrations rôlait sur la prairie. Des gémissements se firent entendre. J'appelai mes camarades par leur nom. Personne ne me répondit. Alors, une brise ayant passé, le frémissement du bois me renseigna sur l'orientation. La France libre était par là. Et soudain, un bruit sourd et continu, auquel je ne pouvais me tromper, tambourina du côté de l'ouest. J'écoutais. C'était le bruit de l'artillerie sur les routes, un grondement qui s'étendait du nord vers le sud. L'ennemi avançait encore. J'essayais de me traîner vers le bois à quatre pattes. La tâche était au-dessus de mes forces. Et même si la prairie n'avait pas été creusée d'entonnoir et jonchée de cadavres, je n'y serais pas parvenu. Ayant tari mon bidon sans étancher ma soif, je m'allongeai la face dans la fraîcheur de l'herbe et je me résignai à mon sort. Je me souviens de m'être retrouvé accroupi et poussant des hurlements après avoir distingué je ne sais quel bruit qui m'avait tiré de l'hébétude. En effet, des voix s'élevaient, des hommes causaient entre eux dans la distance. On vint, c'étaient des Allemands. Je fus placé sur un brancard et je me sentis emporté. On m'introduisit, moi et le brancard, dans une automobile. L'engourdissement me reprit. Au bout d'un certain temps, je me trouvai couché dans un lit, la tête entourée de pansements. La canonnade s'était éloignée. L'odeur pharmaceutique, les murmures environnants, les bruits du dehors. Oh, une ambulance, pensais-je. Mais moi qui avais trouvé la force de crier dans la prairie, j'étais trop faible maintenant pour dire un mot. Et l'on me posa en allemand des questions de circonstances auxquelles je ne pus répondre, bien que leur simplicité me permît de les comprendre. Je ne vais pas vous décrire une à une mes premières impressions d'aveugle et de prisonnier. Sachez seulement le principal que voici. D'après mes suppositions, j'ai dû parvenir en ambulance à la chute du jour. On m'avait placé, autant que je puis l'estimer, dans une salle contenant un grand nombre de blessés. Au silence extérieur, comme à la respiration de ceux qui dormaient, je conclus bientôt à la nuit. Une horloge sonnait les heures, et je m'assoupis de nouveau. À minuit, je fus réveillé par des pas et des chuchotements. Les mots « Franzose, Augen » et « Dreitausend Marken » frappèrent mes oreilles. Ils étaient deux qui conversaient. L'un ne faisait qu'acquiescer et répétait « So, so » à tout bout de champ. Français, yeux, voilà qui semblait se rapporter à moi. Mais que venait faire là-dedans cette somme de 3 000 marks? Da ist es, camarade, fit l'une des deux voix. Et avec un accent épouvantable, on me dit en français: Comment êtes-vous, mon vieux? Nous allons furent conduire en Bomblaz, alzo, alzo. Vous serez bien guéri. Vous ne pouvez pas parler. Ah, Zergut, Ludwig, ah. Le contentement faisait ricaner cet homme. En un instant, je fus bâillonné et garrotté. On me transporta du lit sur une civière. L'automobile qu'il a reçue était cette fois si discrète que son mouvement seul me fit connaître sa nature et sa rapidité. J'ai l'impression que le voyage dura plusieurs heures. Après quoi, je fus embarqué dans un wagon qui me sembla rouler indéfiniment. Je n'ai conservé de tout ceci qu'un souvenir très vague. La lassitude accablait mon corps et l'indifférence endormait ma pensée. Il faut que l'éclatement de l'obus m'ait violemment ébranlé ou, ce qui est fort possible, qu'on m'ait administré quelque substance abrutissante. Car, j'oubliais de vous le dire, les soins les plus attentifs me furent prodigués pendant la route. Une main experte renouvelait mes pansements, on me faisait boire des drogues avec toute la douceur désirable, et mille prévenances m'étaient réservées. Mais personne ne m'adressait la parole, et personne ne parlait dans le wagon. Une présence continuelle veillait auprès de moi, silencieuse et serviable. Où m'ont-ils conduit? Quel était le but de ce voyage interminable? Je puis certifier à présent que c'était une maison perdue dans la forêt, mais en quelle région de l'Europe centrale? Je l'ignore et sans doute je l'ignorerai toujours. Tout à coup, il me parut que je me réveillais. Comprenez-moi, j'avais l'illusion de me réveiller tout à fait, après avoir rêvé le cauchemar de la prairie, de l'obus, de l'ambulance et du voyage. J'étais dans une couchette. Un grand calme succédait au roulement du train. Quelqu'un me maintenait la tête et je sentais sur mes yeux une chaleur se mouvoir. « C'est quelque puissante lumière, me dis-je, dont on promène le faisceau d'un œil à l'autre. On m'examine. » Des personnages autour de moi discutaient avec animation. J'ai connu depuis lors que c'était là leur manière habituelle de causer et que leur langage impénétrable, guttural, chantant, accentué, comportait l'ardeur du débit et une grande dépense de vocifération. Sans les voir, on les devinait gesticulant, grimaçant. Mais ce langage avait des rudesses barbares qui me déroutaient. Un idiome balkanique, peut-être. Aujourd'hui, malgré tout le romanesque de l'hypothèse, je croirais plutôt à une langue fabriquée, genre volapuc ou espéranto. Je couvris mes yeux de mes mains. Mais que voulez-vous? Que me faites-vous? Dis-je. Qui êtes-vous? Dites-moi où je suis. Deux mains affectueuses se posèrent sur les miennes, et la voix d'un homme jeune, une voix rassurante, sympathique, chaudement timbrée, me dit dans un français impeccable: Monsieur Lebris, soyez sans inquiétude. Vous n'êtes entouré que d'amis. Cette maison est une maison de science. Considérez-la, en ce qui vous concerne, comme une clinique d'ophtalmologie. C'est moi qui suis votre médecin et j'ai, soit dit non par vanité, mais pour vous rassurer, j'ai ici-bas quelques réputations. Mais monsieur le major, encore une fois, où suis-je? Je ne suis pas militaire, fit l'étranger dans un sourire que j'entendis. Appelez-moi, enfin appelez-moi, le docteur Prosope. Grec, turc, autrichien, bulgare? Demandai-je avec une frayeur instinctive. La science n'a pas de patrie, monsieur Lebris. Que vous importe? Mais grand Dieu, apaisez-vous. Je ne sais ce que vous supposez. Sa main forte pressait ma main. Il ajouta solennellement: Au nom de mes collaborateurs ici présents, je vous jure que nous avons à votre endroit, médicalement parlant, que des intentions fraternelles et secourables. Tout ce que nous pourrons faire pour vous secourir, pour améliorer votre état sera fait. Mais je me rappelais la façon brutale dont on m'avait extrait de l'ambulance. Et en dépit de toutes les protestations, le caractère clandestin de l'aventure me faisait frissonner. Mais pourquoi vos agents m'ont-ils choisi, moi, entre tous les blessés de là-bas? Votre cas est le seul qui nous intéresse. Mon cas, il ne me paraît pas fameux. Nous verrons, espérez, monsieur Lebris, et soyons amis. Mon cher Barre, il y a un accent qui ne trompe guère. En vérité, ces hommes n'ont-ils pas fait le nécessaire pour me sauver la vue? Et n'ayant pu me la conserver, n'est-ce pas dans toute la sincérité d'une aberration qu'ils ont jugé que... Non, mais n'allons pas si vite. J'ai vécu 3 semaines, traité et soigné admirablement en ce lieu de la terre qui ne m'est pas connu. J'avais une chambre bien aérée. Mon service était assuré par des domestiques furtifs et muets. Le docteur Prosope passait de longs moments à m'entretenir, et c'était une joie de l'entendre, car il voit les choses de haut, et il en sait. Cependant, je n'avais aucune nouvelle de la guerre. Le docteur prétendait s'en désintéresser comme d'un événement lointain, lointain dans tous les domaines. Et quand je lui demandais d'écrire à ma mère pour calmer ses alarmes, il me dit simplement que pour l'heure, c'était impossible. J'ai beau faire appel à tous mes souvenirs, je ne me rappelle pas qu'il m'ait menti. Mais se taire, ne pas dévoiler certaines pensées, n'est-ce pas tout de même mentir? Enfin, que sais-je? Quel est cet homme, après tout? Il avait tellement besoin de ma confiance, de ma complaisance. Un jour, il me dit, après m'avoir donné les soins matinaux, « Mon pauvre Lebris, je ne suis pas content. Ça ne va pas comme je voudrais, ces yeux-là. » Je dois vous dire, Barre, que je m'attendais à rester aveugle toute ma vie et que cette annonce ne me fit pas grande impression. « Le mieux, voyez-vous, reprit Prosope, le mieux serait de vous en débarrasser. Ils ne peuvent que vous nuire en altérant le voisinage. » D'ailleurs, je ne voudrais pas vous donner de folles espérances, mais il me semble que cela fait, nous pourrions, dans une certaine mesure, tempérer votre infirmité. Que dites-vous? Une fois mes yeux partis, bien malin, qui... Tout dépendra de ce que nous trouverons derrière vos yeux. Vous saisissez. Tout dépendra de l'état des nerfs optiques. Enfin, nous en recoserons, Lebris. Pour le moment, je vous conseille de faire enlever ça. L'énucléation s'impose, mon ami. J'insiste. Nous vous opérerons demain matin, n'est-ce pas? J'y consentis de bonne grâce. Depuis quelque temps, mes yeux inutiles devenaient lourds, cuisants. Ils me semblaient dilatés, et cette souffrance m'avait fait parfois désirer ce qu'on venait de me proposer. Au demeurant, je le répète, Prosope m'avait mis en confiance, et la maison était si paisible. Jamais un cri, jamais de vacarme suspect. Pendant mes heures d'oisiveté et de nostalgie, quand je songeais à la belle France que mes yeux ne reverraient plus, à moi d'un prodige auquel je ne croyais guère, et même quand j'épiais les bruits de ma prison pour tâcher de deviner ce qu'on y faisait, je ne distinguais que les rumeurs du travail et de la paix. Souvent des machines tournaient, un ronronnement d'atelier me parvenait à travers les bâtiments, mais tout était placide, débonnaire, reposant. Le lendemain, je n'avais plus d'yeux. Au sortir de l'anesthésie, comme je cédais à une tristesse instinctive, Prosope m'apprit avec un enthousiasme étrange que l'opération s'était accomplie dans les meilleures conditions et que tout favorisait la tentative dont il m'avait parlé. Les nerfs optiques sont intacts, laissons cicatriser. Lebris, vous êtes né sous une bonne étoile. Vous allez être associé à des recherches sensationnelles. Il m'a dit qu'il ne savait pas du tout si la tentative en question réussirait. Je crois qu'il n'espérait qu'un résultat indicatif, mais il fallait m'encourager. En tout cas, bien que je l'accablasse de questions, je n'obtins de lui aucun éclaircissement sur le fond de l'entreprise. Et vous pouvez penser combien de conjectures se pressaient dans mon crâne. Je m'arrêtais successivement à l'idée d'une greffe, puis à l'idée d'une intervention d'optique. Et je me voyais tantôt pourvu des yeux d'un animal quelconque, tantôt nanti de prunelle postiche, œuvre d'un opticien génial. Mais de toute façon, je me voyais voyant. Prosope n'avait-il pas tablé sur l'intégrité du nerf optique ? Vous devez me trouver bien crédule, mon ami, mais si vous saviez tout ce que renferme pour un aveugle ce petit mot « voir ». D'ailleurs, ce qui s'est produit n'est-il pas plus extraordinaire, plus magnifiquement prodigieux que ne le serait la vue artificielle ? Si vous le désirez, un autre jour, je vous énumérerai, autant du moins que j'ai pu m'en rendre compte et m'en souvenir, tous les préparatifs que je dus subir. Soins variés, mensurations, moulage des orbites, et finalement, présentation de deux corps parfaitement lisses qui s'adaptaient au mieux dans leur logement. On les retira presque aussitôt. Leur placement d'essai avait eu lieu en présence de plusieurs personnes. Elles ne se privaient pas de parler avec abondance dans leur étrange charabia, et ce jour-là, ce ne fut pas Prosope qui m'interrogea sur mes impressions, mais un vieillard dont la voix grêle semblait sortir d'une serinette. En français, naturellement, mais sans pureté et avec toutes les intonations du volapuc mystérieux. Je lui dis n'éprouver aucune sensation pénible par le fait des deux boules qu'on venait de me poser, et je compris que ma réponse le comblait de satisfaction. À quelques jours de là, on m'endormit pour la deuxième fois. La première fois, mon réveil nauséeux s'était accompagné de phénomènes que vous connaissez sans doute, éblouissement, fulgurance et autres facéties déterminées par la réaction des deux nerfs optiques, puisque c'est là leur façon de souffrir, et puisqu'on venait de pratiquer leur séparation avec mes yeux hors d'usage. Aussi, cette deuxième fois, quand les vapeurs d'éther commencèrent à se dissiper et que des luminosités m'apparurent sous forme de traits et de brume, je pensais bonnement qu'une cause similaire engendrait des effets analogues. Mais peu à peu, à mesure que je sortais du néant provoqué, ma propre matière se reformait pour mes sens. Je me sentais étendu, les yeux fermés sous un épais bandage. Et pourtant, « Non, non, me dis-je, je ne suis pas éveillé. Il faut au contraire que je sois plongé au tréfonds du sommeil opératoire. Je suis le jouet d'une fantasmagorie. Et cela ne peut être que le résultat détourné d'une douleur que l'anesthésie m'empêche de sentir. C'est la répercussion nerveuse d'un travail chirurgical. Une piqûre, une coupure, traduite en hallucination. » Parbleu, mes yeux ne sont-ils pas fermés ? N'ai-je pas un bandeau sur les yeux ? Erreur. J'étais indiscutablement éveillé, conscient, lucide, et j'apercevais devant moi, debout et lumineux, un être effrayant et fantastique.